RTL équipe, carrément sport. Maxime Marchand.
Bonjour à tous et bienvenue dans Carrément Sport, votre rendez-vous multisport de la semaine, tous les jours de 9h30 à 11h30, 2 heures de sport en votre compagnie. Et pour cette dernière de la semaine, on vous a concocté un programme très très chargé. À 9h45 du rugby avec la finale de l'Europe, avec la finale du challenge européen, pardon, le Stade français peut sauver sa saison, sa piètre saison, sa décevante saison avec une 11e place, on le rappelle, la pire place en top 14 depuis son accession en 97. Ils se déplacent ce soir sur la pelouse de Cardiff, ils vont affronter les Harlequins et en cas de victoire, les Parisiens retrouveront l'Europe, la vraie, la H-Cup dès la saison prochaine. Pour analyser cette finale, nous ferons appel à Clément Grèze. 9h52 du foot, à suivre ce soir sur notre antenne le multiplex Ligue 2 aux manettes de cette 37e et avant-dernière journée, Salim Bangali et toute son équipe, au terme duquel on connaîtra peut-être les futurs promus à la Ligue 1 parmi les prétendants les plus sérieux, Evian Thonon-Gaillard. On le sait, actuel leader de Ligue 2 et en cas de victoire à Reims ce soir, le promu au Savoyard a de grandes chances d'accéder officiellement à la Ligue 1 pour la première fois de son histoire dans l'élite du football français. Pour en parler, nous accueillerons ni plus ni moins que le président de l'Evian Thonon-Gaillard, Patrick Trottignon. 10h15 du tennis, J-2 avant les internationaux de Paris. À 11h30 aura lieu le tirage au sort des premiers tours et le tirage au sort de ces internationaux de France. Et on va répondre à cette question, la question qui revient chaque année: quelles sont les chances de nos Françaises et Français dans ce tournoi mythique de la Porte d'Auteuil? Pour y répondre, Arnaud Di Pasquale, ancien joueur professionnel et maintenant consultant pour l'équipe TV. 10h22 du basket, la phase finale de la saison de Pro A, quart de finale retour. Deux matchs sont programmés ce soir. Roanne accueille Gravelines, la chorale qui doit se réveiller après sa défaite du match aller 66-60. Tout comme Le Mans qui a été défait à Cholet. Les hommes de J.D. Jackson sont dos au mur et doivent impérativement gagner sur leur parquet ce soir. Une rencontre sur laquelle on s'attardera puisque notre invité sera Christophe Lebouil, le président du MSB Le Mans-Sarthe Basket. 10h45, la page handball animée par Yves Michel, au programme notamment la finale retour de la Coupe des Coupes entre Tremblay en France et les Allemands de Gummersbach. Et puis dans un second temps, les finales de la Coupe de France, il y en a 6 au programme. Et puis on terminera par Histoire de Sport à 11h15, un des plus grands combats de boxe de l'histoire, la revanche entre Mike Tyson et Evander Holyfield, une histoire qui vous sera narrée par Guillaume Laniel.
RTL l'équipe, Carrément Sport.
Allez, on commence directement par une finale, c'est en rugby, c'est la finale du challenge européen, la petite coupe d'Europe comparée à la H-Cup, mais un club français, le Stade français, est en finale, il est opposé au Harlequins. C'est pour décortiquer tous les enjeux de cette rencontre, j'accueille notre spécialiste rugby, le présentateur de l'émission Carrément Rugby, j'ai nommé Clément Grèze. Bonjour Clément.
Salut Max, bonjour à tous.
Ce soir, finale donc pour le Stade français qui peut sauver sa tristoune saison en top 14. Ils ont terminé à la 11e place, on le rappelle, c'est le pire classement du Stade français depuis son accession en 97 dans l'élite du rugby français. Alors c'est une finale, c'est une coupe, mais c'est donc bien plus que ça pour le Stade français.
Ouais, c'est véritablement l'occasion de sauver cette saison qui a été tout simplement pourrie pour les hommes de Matt Guadini. Une saison qui s'est très très mal goupillée avec un effectif construit un petit peu à la hâte, sans doute pas assez de joueurs de qualité dans cet effectif. Il y a toujours évidemment une ossature solide dans ce club du Stade français avec 15, 16, 17 joueurs qui sont le très très haut niveau et le haut du panier sans doute du championnat de France. Mais voilà, derrière, eh bien, il y a sans doute eu quelques petites erreurs et du coup le Stade français a mal construit sa saison. Le Stade français qui évoluait cette saison hors de la H-Cup pour la première fois de son histoire et qui du coup s'est retrouvé dans cette compétition, la Hamelin Cup, le challenge européen comme on l'appelle en France, et a réussi pour le coup là dans une compétition de moindre importance, un parcours qui leur a permis de s'offrir quelques respirations tout au long de cette saison et d'arriver aujourd'hui en finale avec un objectif qui est important puisque c'est bien sûr un trophée à gagner, mais au-delà de ça, vous le savez, c'est aussi la possibilité de valider, de composter son ticket pour la H-Cup la saison prochaine. La H-Cup qui est la compétition référence sur la scène européenne, qui permet surtout des retombées financières importantes. Et on sait que cette semaine, notamment, les finances ont été au cœur de l'actualité du club parisien.
Alors en face, c'est les Harlequins, une équipe qu'on connaît assez peu en France, même si on a pu les voir les saisons précédentes. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet adversaire, Clément ?
Alors les Harlequins, c'est véritablement l'un des clubs phares de l'histoire du championnat d'Angleterre. C'est un club qui n'a pas réussi forcément la meilleure saison de son histoire cette saison en championnat, même s'ils ont été réguliers avec quelques succès de valeur, notamment face aux joueurs de Sale, face aux joueurs de Leicester. Mais cette formation n'a pas réussi à se hisser parmi le haut du panier cette saison à l'issue des 21 premières journées de championnat. Alors on va attendre, évidemment, cette formation de Harlequins comme l'équipe favorite de cette rencontre face au Stade français, parce qu'elle présente un effectif qui est un petit peu plus complet, disons-le clairement, avec des joueurs comme Nicky Sturr en troisième ligne, notamment avec plusieurs joueurs que l'on connaît,
Gary Botha, charnière aussi, le
sud-africain, la charnière effectivement, avec Danny Kerr à la mêlée, lui qui pourrait remporter l'un de ses premiers tournois depuis une éternité. C'est vrai qu'on dit souvent de lui, de Daniel Kerr, qu'il n'est pas du tout un match winner. C'est vrai qu'il n'a pas permis à ses équipes de remporter le moindre trouvé. On va retrouver également à l'ouverture Nick Evans, qui fait partie des grands noms du rugby mondial. Cette formation des Harlequins qui va se présenter avec la possibilité de remporter son troisième challenge européen. Ce serait une première, tout simplement, dans l'histoire, face à une formation du Stade français qui arrive en plus quelque peu amoindrie, disons-le clairement, puisque Dimitri Zarzewski, qui avait un temps espéré effectuer son retour dans cette formation parisienne après sa blessure contractée avant le tournoi Destination, finalement sera un petit peu court pour ce déplacement et pour cette finale de challenge européen.
Alors dans cette finale, il y aura beaucoup de clés, vous l'avez dit, notamment l'effectif, on en a parlé, mais il y a aussi le début de match. On sait que c'est une équipe, cet adversaire, les Harlequins, qui rentrent très bien dans la partie et très vite. Est-ce que ces 5-10 premières minutes sont très importantes pour le Stade français? Ce sera vraiment la clé du match.
Elles seront forcément très importantes parce que le Stade français est une équipe en manque de confiance depuis plusieurs semaines maintenant, et le Stade français va avoir forcément un moment difficile dans la préparation de cette rencontre, c'est-à-dire réussir à oublier tout ce qu'il s'est passé cette saison pour attaquer cette finale tambour battant. Alors le problème, c'est que lors de ces précédentes rencontres, notamment en demi-finale face à Clermont, on a vu une équipe du Stade français réussir un match assez médiocre, disons-le clairement, se qualifier tout de même grâce aux errements, on va dire, offensifs, notamment des Clermontois, qui ont rendu deux ballons de contre, ensuite transformés par Guillaume Bousset et Julien Arias. Mais c'est vrai que le Stade français va avoir sans doute beaucoup de pression, beaucoup plus de pression que les Harlequins en début de rencontre. Et cette formation des Anglais va peut-être pouvoir en tirer parti. En tout cas, c'est pas exactement ce que l'on souhaite dans les rangs parisiens.
Alors Clément, je m'excuse d'avance, je vais vous mettre un peu en difficulté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même en cas de défaite, il se pourrait que le Stade français soit qualifié la saison prochaine pour la H-Cup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Vous avez révisé, j'ai l'impression.
Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a un classement européen de toutes les équipes qui participent aux compétitions européennes, sachant que toutes les équipes du championnat de France participent au challenge européen, sauf les 6, voire 7 premiers qui participent à la H-Cup. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que en cas de victoire et de Harlequins en finale du challenge européen et de Northampton en finale de la H-Cup demain face à Leicester, on se retrouverait dans une configuration où il faudrait inscrire une équipe de plus pour la compétition européenne, la H-Cup, la saison prochaine. Et au classement européen, la première équipe qui ne serait pas directement qualifiée pour la compétition l'année prochaine, ce serait le Stade français, et ce serait donc elle qui bénéficierait de ce classement et de cette place en plus. Le problème, c'est que cette place était initialement prévue pour Perpignan, et le barème de points aurait changé en cours de saison. Donc Paul Gosse, qui est le président perpignanais, a indiqué que si véritablement le barème de points avait changé en cours de saison, il irait voir les actions qui lui sont possibles de faire pour récupérer la place qui serait ainsi vouée au Stade français. On n'en est pas là pour l'instant, parce que on vous rappelle les deux conditions, c'est que les Harlequins l'emportent en finale de H-Cup, et que Northampton s'impose face à Leicester en finale de la H-Cup.
D'accord. Je ne sais pas si tout le monde a très bien compris. En tout cas, vous avez l'air de bien savoir. C'était bien expliqué. Et on a compris que ce soir, en fait, il va falloir surtout gagner pour le Stade français.
Ce sera
un peu plus simple pour eux pour passer. Merci Clément. Je ne sais pas si c'est vous qu'on retrouve aux commentaires.
C'est Luigi Collange qu'on retrouve ce soir aux commentaires de la finale.
D'accord. La finale à suivre à partir de 20h45 en direct, donc sur RTL L'Équipe. Merci Clément. Merci de vous être réveillé ce matin si tôt pour répondre à notre question.
J'étais déjà réveillé. Là.
J'étais déjà réveillé. Bon, bah bonne journée, Clément.
Merci,
et puis bonne soirée. À très bientôt. Une petite pause dans RTL L'Équipe dans Carrément Sport et on revient après avec du tennis. On le sait aujourd'hui, il y a le tirage au sort ce matin à 11h30. Tirage au sort pour les internationaux de Paris, dans lequel il y a de nombreux Français, des chances françaises et français surtout. Et pour répondre à cette question, savoir si les Français ont cette année une chance de briller à Roland-Garros, on va recevoir Arnaud Di Pasquale, ancien joueur professionnel, responsable du haut niveau masculin et aussi consultant média.
Tous les jours sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Sport. La nature chez Intersport. Du 11 au 28 mai, Coach Intersport vous propose la chaussure homme Salomon Mambo Aero à 44,95€. 44,95€ au lieu de 64,95€, soit 30% de réduction. Technicité et petit prix, idéal cette chaussure d'outdoor.
Intersport, le sport commence ici.
Offre valable du 40 au 46 2 tiers dans les magasins participants. RTL L'Équipe, Carrément Sport.
Petit changement de programme, autant pour nous. On va parler de la Ligue 2, la 37e journée. Le tennis viendra après, aux alentours de 10h15. 37e journée donc de Ligue 2, avant-dernière journée, à partir de 20h30 sur notre antenne, le multiplex Ligue 2 RTL L'Équipe. De nombreuses rencontres à suivre, 10 notamment, et cette petite finale entre Reims et Evian Thonon-Gaillard. Petite finale, puisque à l'issue de ce match, et si les autres résultats sont à leur avantage, Evian Thonon-Gaillard pourra être officiellement promu en Ligue 1. Et donc, pour nous parler de cette rencontre, qui mieux que Patrick Trottignon, le président d'Evian Thonon-Gaillard. Bonjour président.
Oui, bonjour.
Alors je crois savoir que vous êtes à l'aéroport en partance pour Reims. Oui. Première question, à quelques heures d'une possible et historique ascension en Ligue 1, on rappelle que vous êtes promu tout juste en Ligue 2. Comment vous sentez-vous?
Aussi étonnant que ça puisse paraître, moi personnellement je me sens plutôt très bien. Et puis je pense que l'ensemble du club se sent aussi très bien. Et quand je dis ensemble du club, je pense évidemment aux joueurs et au staff. Je n'ai pas senti cette semaine une excitation particulière. J'ai senti une excellente concentration de tout le monde, une envie d'en finir au plus vite, si je puis dire. Si on peut en finir d'ailleurs, parce que ce n'est pas sûr. En sport, on a vu des surprises ou des retournements de situation encore plus spectaculaires. Donc il faudra marquer les points nécessaires pour effectivement avoir cette accession. Mais globalement, je veux dire, on n'a aucun stress particulier. On va dire qu'on est serein, quoi.
Donc une préparation normale pour un match quand même assez spécial.
Oui, mais c'est une préparation tout à fait normale. Les joueurs sont partis hier, ils sont sur place, comme si ce match était un match ordinaire. Mais je crois que la meilleure façon de ne pas mettre la pression justement sur les joueurs, c'est de considérer ce match et sa préparation comme un match normal.
Mais est-ce que c'est aussi facile que ça? Parce que c'est vrai que on le répète souvent dans les discours des dirigeants, de l'entraîneur ou du président, on dit aux joueurs ça, prenez-le comme un match normal, mais on le sait au fond, c'est quand même pas un match normal. Donc est-ce que c'est aussi facile que ça de le prendre comme un match normal?
Oui, sûrement, mais vous savez, c'est toujours ce genre de rencontre, c'est toujours un peu spécial, évidemment. Je vais pas vous dire le contraire, hein, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un match qui peut avoir une issue historique. Et si c'est pas celui-là, ce sera peut-être le prochain d'ailleurs. Mais ça sert à quoi de mettre la pression aux joueurs? Vous savez, on est dans un club où cette accession, c'était pas prévu et c'était surtout pas l'objectif de début de saison. Maintenant, ça nous tend les bras. Alors évidemment, je vais pas vous dire qu'on n'a pas envie de la prendre, mais ça sert à rien de. Moi, j'ai même pas parlé cette semaine aux joueurs pour leur mettre une pression quelconque. Je crois qu'ils sont assez professionnels. Vous savez, on a la moitié de l'équipe qui sont des plus que trentenaires, avec des joueurs de grande expérience comme Claudio Cassapa, Olivier Sorlin ou Cédric Barbosa, pour ne citer qu'eux. Je crois que j'ai pas besoin d'aller leur dire la messe, hein. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire.
En face, ce soir, vous jouez contre une équipe de Reims qui n'a plus rien à jouer. C'est une équipe qui a obtenu son maintien en Ligue 2 lors de la dernière journée. Est-ce que à quel type de match vous attendez-vous de la part de l'équipe adverse?
C'est un match. Je vous dis, moi, je suis inquiet sur ce match parce que je pense que quand il s'agit du dernier match de la saison, quand il s'agit d'une équipe comme Reims qui a encore des choses à prouver, à démontrer à son public, parce que on peut dire. Bon, ils sont peut-être un peu déçus de leur saison, les joueurs et les dirigeants et le staff. Donc ils ont envie de finir sur une bonne note. Ils ont fait une belle carrière en Coupe de France. Ils ont donné un peu de plaisir à leur public. Ils ont fait des résultats, je dirais, assez performants ces derniers temps contre les grosses équipes du championnat, à part leur dernière défaite contre Dijon, mais toutes les autres équipes sont passées à la moulinette au stade de l'Aune. Donc je veux dire que ça va pas être un match facile, parce que moi je me mets à leur place. Je veux dire, si c'est nous qui recevions pour le dernier match de la saison devant notre public le leader du championnat, je peux vous dire qu'on a envie de gagner, quoi. Ça c'est sûr. Donc là, de me dire que les joueurs de Reims sont démobilisés et qu'une motivation extrême de notre part suffira, moi j'y crois pas. Je crois qu'il va se mettre un match très difficile, très disputé, qui en plus contre une équipe qui sur le papier présente des individualités de très grande qualité.
Méfiance donc, et vous en parliez tout à l'heure lors d'une de vos réponses, vous vous attendiez pas à monter directement en Ligue 1, en tout cas qu'il y ait cette possibilité, parce que c'est pas encore officiel, il y a encore deux matchs à jouer pour les deux dernières journées de Ligue 2, mais si vous vous y attendiez pas, maintenant il y a quand même une forte probabilité. Alors comment vous préparez-vous pour la saison prochaine? Est-ce que, notamment au niveau du recrutement, du stade et autres, est-ce que ça se bouscule un peu en ce moment?
Ben, j'aurais tendance à vous dire qu'on se prépare bien. Je suis comme la préparation de ce match, serein pour une éventuelle saison en Ligue 1, parce que nous sommes un club qui depuis un club neuf évidemment, mais qui depuis maintenant quelques mois, même quelques petites années, on va dire depuis 2008, on s'est bien structuré en termes humains. On a des services qui fonctionnent bien avec une équipe de beaucoup de jeunes collaborateurs autour de moi qui ont la pêche, si je puis dire. Et puis, un stade qui est peut-être pas forcément un stade, mais un stade que la ville d'Annecy et nous-mêmes avons réussi à transformer. C'est un stade qui accueille parfaitement bien les équipes de Ligue 2 qui viennent d'y jouer également, qui accueillent le championnat de Ligue 2. On a même accueilli un 32e de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, ça s'est très bien passé. Donc je veux dire, tout ça, ça nous forme et ça démontre que Antonin Gaillard a la capacité d'aller en Ligue 1 sans être sans qu'on se moque de nous, parce que je pense qu'on aura les capacités de faire bonne figure. Alors quant au gros dossier évidemment qui concerne le recrutement, eh bien on s'y penchera lorsque l'officialisation d'une accession sera effective, bien entendu, parce que ça sert à rien de le faire avant, on n'a pas de temps à perdre. Mais je vous garantis que Evian Tonon-Gaillard fera de bonnes figures dans le championnat de Ligue 1, parce que la pire des choses qui puissent nous arriver, ce serait que dans un an comme maintenant, après avoir peut-être s'est embrassé comme des fous dans 8 jours ou ce soir, j'en sais rien, c'est dans un an avoir des grosses larmes. Ça, je déteste ce genre de situation. Je pense qu'il faut continuer à bien travailler, et dans la vie, qu'une vertu, c'est le travail pour réussir.
Eh bien, merci, Président Trottignon, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On vous souhaite un bon voyage et surtout un bon match ce soir, en espérant une victoire. Merci, Président.
Carrément Sport, c'est sur RTL l'équipe.
Et c'est notamment du basket ce soir, les quarts de finale, retour des playoffs de la saison de Pro A, avec notamment Roanne Gravelines, la chorale de Roanne qui est dos au mur face à Gravelines, et dans l'autre match, Le Mans qui reçoit Cholet qui mène 1-0 dans ces quarts de finale. Le quart de finale aller a été gagné de 2 points par cette équipe de Cholet. Et pour parler de ce match, nous allons accueillir les deux présidents des deux clubs. Et en premier lieu, le président de Cholet qui nous fait le plaisir d'être sur notre antenne aujourd'hui. J'ai nommé président Patrick Chiron. Bonjour président.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc à quelques heures de ce quart de finale retour de Pro A dans ces playoffs, vous jouez à 20h30 ce soir sur le parquet de Le Mans pour entériner cette qualification pour les demi-finales. Quelles sera selon vous les clés de cette demi-finale de ce quart de finale retour, pardon?
Oui, bah écoutez, déjà vous dites pour entériner, pour l'instant rien n'est sûr, hein. On espère bien sûr gagner cette belle, mais bon, au cas où, pas cette belle, cette revanche plutôt, et donc j'espère qu'on va gagner, mais si on ne gagne pas, bah il y aura le match revanche justement, ou la belle à la Meilleraie, mardi, mais en attendant qu'elle sera là, je pense que déjà l'équipe y va pour gagner, c'est évident, hein. Je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'on ait gagné que 2 points, parce que ça les laisse concentrer, parce que dans ce cas-là, Le Mans, ils se sont aperçus comment on pouvait nous battre, hein, que c'était pas gagné d'avance. Donc l'équipe est au complet. Je pense qu'au Mans aussi, je souhaite surtout que ce soit une belle que ce soit un beau match.
En effet, il y a quand même une statistique qui plaide un peu en votre faveur. Vous avez 2 victoires en championnat, une victoire notamment dans ce quart de finale aller. Ça fait 3 victoires face à votre adversaire du soir. C'est quand même une statistique qui est quand même confortante.
Oui, les séries, les statistiques sont faites aussi pour être, disons, terminées un jour. Et puis, j'avais pas pensé à celle-là, mais 3 victoires, vous savez, on dit jamais 203, mais après la série est terminée. Donc, soyons prudents là-dessus. Et non, un match reste un match. Et je pense que ce soir, bah, écoutez, voilà, hein, il va falloir jouer le match. Nous, c'est sûr qu'on espère gagner pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales, ce qui est très important pour l'équipe et pour le club. Bon, mais il faudra battre Le Mans et ce sera pas si facile que ça.
Eh bien, on vous souhaite une très bonne quart de finale retour ce soir et pourquoi pas une victoire pour accéder directement à ces demi-finales. Merci, merci d'avoir pris le temps de participer à notre émission, président. Merci à vous et bonne fin de journée. On revient juste après une petite respiration et on va accueillir l'autre président, le président du Mans, Christophe Lebouille.
RTL L'Équipe, Carrément Sport.
Et dans notre émission de ce matin, on continue à parler basket et cette ce quart de finale, je vais pas y arriver, dis donc, ce matin, ce quart de finale retour de Pro A dans ces playoffs 2011 entre Le Mans et Cholet. Nous avons eu Patrick Chiron, le président de Cholet, qui a gagné la première manche. Ce soir, il y a la deuxième manche et pour en parler, on accueille Christophe Lebouille, qui est le président, mais de l'autre club, Le Mans Sarthe Basket. Bonjour, président.
Bonjour.
Première question, est-ce qu'à lors de ce match aller, ce quart de finale aller, vous n'avez pas laissé passer votre chance avec cette défaite de 2 petits points seulement?
On le saura ce soir, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse car après avoir été largement dominé en première période, on a montré de belles choses en seconde mi-temps et il me semblait qu'on avait le match en main. Voilà, simplement on n'a pas réussi à passer devant, on a loupé 2-3 occasions pour passer devant Cholet, ce qui fait que voilà, on n'a pas réussi à remporter cette manche et ce qui aurait mis une grosse pression sur Cholet ce soir. Maintenant c'est nous qui devons la supporter effectivement.
Et qu'est-ce qu'il faudra montrer en plus que lors de ce match aller?
Pas forcément en plus, mais plus longtemps. C'est-à-dire que le match aller, on l'a fait sur 20 minutes et pour battre Cholet, il faut faire ça sur 40 minutes. Voilà, je crois que c'est la seule chose à améliorer parce que dans l'attitude, dans l'engagement, dans l'investissement, dans l'intelligence de jeu, on a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps, mais on est parti à moins 15. C'est beaucoup trop quand vous jouez le champion de France en titre, premier de la saison régulière, qui a accumulé une grosse confiance et qui est évidemment très fort. Donc il faudra faire ça pendant 40 minutes, je pense, pour espérer gagner.
Alors on a ressorti tout à l'heure les statistiques, les chiffres au président Patrick Chiron qui nous a dit que les statistiques étaient faites, en tout cas les séries étaient faites pour s'arrêter. Elles ne plaident pas en votre faveur.
Oui, c'est ce que je lui ai dit mardi. Hein.
c'est ce que vous lui avez dit mardi. Voilà. On espère pour vous justement qu'elles vont s'arrêter puisque oui. Vous restez sur 3 défaites face au Chalon Basket cette année. 2 en championnat et 1 lors du match aller.
Puis on peut parler également de la série qui court depuis la saison dernière, hein, puisque on avait souffert également contre la saison dernière. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on ne les a pas battus. Effectivement, plus une série dure, plus on se rapproche de son terme. J'espère que c'est pour ce soir à domicile, parce que c'est vrai qu'on va commencer à faire non pas un complexe, mais il y a quand même une notion de derby aussi qui rentre en ligne de compte.
Aussi,
c'est un petit peu embêtant, faut pas le cacher, voilà.
Et notamment à domicile aussi, où ça vous réussit pas trop cette année à la maison, je crois. 7 victoires à domicile pour 8 défaites.
Ouais,
comment vous l'expliquez, ce facteur?
Il y a différentes choses. C'est surtout en début de saison qu'on a vraiment souffert à domicile. La fois qu'on a dû enchaîner après les tours préliminaires d'Euroleague et la Coupe d'Europe qui nous a vraiment pénalisé. Et puis l'équipe n'était pas prête en début de saison. Donc on a commencé par 4 défaites à domicile en championnat, ce qui est quand même assez incroyable. Pour nous, bon, on a rectifié le tir après. C'est vrai qu'il y a quand même un doute qui s'est installé dans la tête des joueurs. Bon, le public qui était également très, gâté depuis pas mal d'années, était frustré cette année par le spectacle qui n'était pas toujours au rendez-vous. Donc, on n'a pas eu forcément un très très gros soutien, alors qu'on en aurait eu besoin dans les moments difficiles. Je trouve que ça s'est arrangé sur la fin de saison et notamment le dernier match contre Roanne, on a retrouvé un public qui poussait très très fort derrière son équipe. Ce soir, on en aura besoin aussi.
Alors je suis un peu focus puisque j'ai dit au président Patrick Chiron que c'était un bon match, je vous souhaite un bon match aussi et puis que le meilleur gagne dans ce quart de finale. Retour donc de proie entre Le Mans et Cholet. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
RTL l'équipe, carrément sport.
Du basket, on passe directement au tennis avec Roland Garros qui commence dimanche J-2. Et comme chaque année, le tirage au sort a lieu aujourd'hui à 11h30 d'ici une petite heure. Et c'est l'occasion aussi de faire un point sur les chances françaises, savoir si un homme pourra effacer la dernière trace 1983, Yannick Noah, ou chez les femmes, Marie Pierce 2000. Et pour répondre à ces chances de françaises, nous accueillons le responsable du haut niveau masculin, ancien joueur, 6 participations notamment aux internationaux de France de Roland Garros, c'est aujourd'hui consultant Arnaud Di Pasquale. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors la question revient chaque année, c'est un peu un marronnier, mais elle nous fait toujours plaisir à poser. Est-ce qu'il y a un Français qui peut gagner Roland Garros cette année ou une Française, ou est-ce que le fossé est vraiment trop grand?
Non, c'est pas que le fossé est vraiment trop grand, c'est que, enfin, c'est possible, la chance elle est minime. Hein. Il faut quand même que les choses soient claires. Maintenant, on a des Français qui sont capables d'aller jusqu'en deuxième semaine, voire en quart, en demi, et pourquoi pas en finale. Maintenant, on est quand même, on sort sur une génération, en tout cas au niveau du tennis masculin, qui est quand même assez exceptionnelle, avec entre autres un Djokovic qui a quand même pas perdu un match depuis décembre, avec un Nadal qui rafle tout sur terre battue depuis maintenant 5 ans, même 6 ans, et puis un Roger Federer qui fait quand même partie déjà, alors qu'il est encore en activité, des légendes du tennis. Donc c'est quand même une génération qui est très difficile, et on a nos Français qui sont juste derrière, qui jouent très bien, qui ont certainement des chances d'aller en deuxième semaine. De là à dire triompher, ça va quand même être très compliqué.
L'objectif donc, ouais, plutôt la deuxième semaine, notamment pour nos 4 Français qui sont dans le top 20. On va commencer un peu à détailler, notamment mon fils, numéro 1 français, numéro 9 mondial, qui arrive sans repère. Mais pour lui, c'est pas un handicap. On le sait, en 2008, il avait réussi à accrocher une demi. Et puis en 2009 aussi, avec un genou qui était pas au mieux, un quart de finale. Est-ce que c'est la meilleure chance française?
C'est la meilleure chance française. En tout cas, il a montré qu'il était capable d'aller très loin, oui, dans ce tournoi. Il a montré qu'il adorait jouer à Paris, globalement, parce qu'on l'a même vu jouer à Paris-Bercy, justement, où il a fait 2 finales. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Il aime jouer devant son public. Il a prouvé qu'il n'était pas obligatoire, finalement, d'avoir des très bons résultats avant Roland Garros. En tout cas, ça c'est évidemment pour lui, hein, parce qu'il y en a certains qui ont quand même besoin d'arriver avec une certaine confiance et quelques victoires donc sur le tournoi. Mais il est capable. Il y a aussi, faut pas oublier quand même, qui a très bien joué à Rome, qui a battu Federer récemment, qui vraiment confirme, je crois, sa bonne forme de début d'année.
Ouais, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il peut briser le signe indien à Paris? On le sait, à chaque fois il a beaucoup de pression. Ouais. Est-ce que c'est l'année ou jamais, justement, pour lui?
Non, je crois pas. Si c'est pas cette année, elle arrivera son année. Je crois vraiment. C'est pas de l'optimisme. C'est qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Il réussira un bon coup à Roland Garros, c'est certain. Il a tout pour. Il a le jeu, qui s'adapte parfaitement à la terre battue. Dans d'autres tournois, il a montré que donc sur terre battue, qu'il était capable d'aller très loin. Je vois pas pourquoi, à un moment donné, à chaque fois, ça bloquerait à Roland Garros. Ça passera, c'est certain. Et il fait de plus en plus d'efforts. Je trouve que il travaille de plus en plus. Il est beaucoup plus, je trouve, il a beaucoup plus d'objectifs et il a plus envie. Je crois qu'il y a plus d'ambition, tout simplement.
Autre chance française pour en tout cas masculine, pour la deuxième semaine, il y a Wilfried Tsonga et Gilles Simon. En revanche, chez les femmes, c'est un peu plus, c'est pas l'hécatombe, mais bon, il y a moins de chances. On parle de Marion Bartoli. Est-ce qu'elle peut viser une place en deuxième semaine? Parce que c'est assez compliqué, mais en tout cas, une place en deuxième semaine, est-ce que c'est un objectif crédible pour Marion?
Ouais, elle est capable, hein. En tout cas, elle est capable. Voilà, maintenant, est-ce que elle va arriver, c'est compliqué, mais elle en est capable. Elle n'a pas fait une excellente saison sur terre battue, elle a mieux joué hein, sur dur, mais en même temps, son jeu s'adapte beaucoup mieux au ciment. Maintenant, c'est quelqu'un, encore une fois, qui travaille énormément, elle est très ambitieuse. Je sais qu'elle va vouloir briller ici, à la porte d'Auteuil. Donc, il n'y a aucune raison. Enfin, je veux dire, elle en est capable, elle l'a en elle a le tennis pour. Après, il y a aussi le tableau. Enfin, évidemment, il y a un tirage au sort.
Le tirage au sort, hein, 11h30 ce matin.
Ça joue pas mal, hein, évidemment. Mais voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais elle est capable, bien sûr.
Bon, bah, on verra ça dans les deux prochaines semaines pour le tournoi de Roland-Garros. On espère vous avoir sur notre antenne. Je pense qu'on vous retrouvera, ou qu'en tout cas qu'on fera appel à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Carrément Sport. Et puis, bonne journée, Arnaud. Au revoir.
Au revoir.
RTL L'équipe,
Carrément Sport,
le handball.
Avec Yves Michel qui m'a rejoint à mes côtés. Bonjour Yves.
Salut Maxime.
Un programme très chargé ce matin, j'ai envie de dire comme tous les vendredis, avec deux axes majeurs. La finale retour de la Coupe des Coupes ce soir entre Tremblay en France et les Allemands de, attention à mes souhaits, Gummersbach.
Parfait.
Gummersbach. Et les finalités de la Coupe de France aussi, avec pas moins de 6 finales, 6 rencontres demain au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Vous nous expliquerez. Puis une petite information qui est tombée ce matin. On y reviendra à la fin de ce journal. Handball. On commence Yves avec ce match retour des coupes et une tâche assez difficile proposée aux joueurs de Tremblay qui ont un handicap de 2 buts à remonter.
Oui, alors dans un tel contexte, 2 buts à remonter, c'est à la fois peu et beaucoup parce que l'adversaire, ben Gummersbach, est habitué à de tels rendez-vous. Gummersbach, c'est tout simplement le vainqueur de la Coupe des Coupes l'an passé. Alors les Allemands, on connaît le handball allemand. Lors du match aller dimanche dernier, Tremblay a évité tout de même la véritable correction, notamment grâce à un excellent gardien, Dragan Potuča, qui a à lui tout seul et bien arrêté 22 tirs, hein, 22 tirs bien cadrés, donc pour vous dire l'importance de ce gardien. Alors le contexte aussi, ça va les changer, hein, aux Tremblaisiens, ne sera pas du tout le même, puisque dimanche dernier, allez, en tassant, en bourrant un peu les travées, eh ben on est arrivé avec 1900-2000 spectateurs. Là, ils vont se retrouver dans la Lanxess Arena, où une semaine plus tard, donc dans une semaine, va se dérouler le Final Four de la Ligue des Champions. Donc Maxime, vous vous doutez bien que dans l'Allianz Arena, il y a, on va dire, 19 500 spectateurs potentiels, soit 10 fois plus... dix fois plus que ce qu'on a pu vivre à Tremblay. Donc
c'est le plus gros terrain d'Europe,
pratiquement, ouais. D'accord. Pratiquement, c'est là où se font tous les gros matchs de Bundesliga, et à Cologne, c'est vraiment la mecque, on va dire, du handball. Alors les joueurs de Tremblay n'iront pas en victime. Pour eux, l'exploit est possible. 2 buts à remonter, c'est faisable. Écoutez ce qu'en pense Sébastien Ostertag, l'ailier gauche international.
C'est sûr qu'on était un petit peu déçus parce qu'on a bien vu que c'était largement à notre portée. Maintenant, on va là-bas pour faire un résultat et pour ramener cette coupe. C'est sûr que voilà, il y aura au moins entre 5 et 10 000 personnes. Donc ouais, ça sera différent. Après, là-bas, c'est beaucoup spectacle. C'est sûr que ce sera pas comme la Croatie où il y a 16 000 personnes contre toi, comme je l'ai vécu en 2009 avec l'équipe de France. Je pense que tout le monde sera mobilisé, personne sera impressionné, et on va vraiment là-bas pour faire quelque chose. C'est une équipe qui est en phase finale de Coupe d'Europe chaque année, donc il va vraiment falloir s'accrocher du début à la fin.
Vous l'avez entendu, Sébastien Ostertag, il veut gagner ce soir l'ailier gauche de Tremblay et de l'équipe de France dans la finale de Coupe des Coupes face à Gummersbach. L'autre grand événement du week-end, c'est ce samedi à Paris-Bercy, avec les finales de la Coupe de France, une idée très original proposé par la Fédération Française de Handball.
Exactement, parce que ça sera, on va dire, la fête, hein, du handball. Pas moins de 6 finales, 12 équipes en présence. Hein. Ça va aller donc de la finale départementale à la finale nationale. 10h30, finale départementale, hein, garçons et filles. 16h30, première finale nationale féminine entre Toulon et Nîmes. Nous allons y revenir. Et 20h30, deuxième finale nationale, cette fois-ci masculine, entre Chambéry et Dunkerque. Le tout organisé donc au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Le prix des places, ben ça aussi entre 10 et 20 euros. Les 2400 clubs que compte la fédération ont été sollicités, et on peut augurer un bon taux de remplissage donc du POPB ce samedi. Entre les deux finales, les deux grosses finales, 16h30 20h30, et bien à 18h30 il y a une finale régionale avec notamment chez les filles une affiche inédite entre le Paris Handball section amateur et l'Entente Saône Mamirol, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un club issu de deux communes du Doubs, à peine 4700 habitants, 60 000 euros de budget, un club qui en fait vit un rêve éveillé. René Leclerc est le président de l'Entente Saône Mamirol.
Cette
peut-être pas une consécration. C'est une part importante du club qui va se marquer ce jour-là. C'est vrai que c'était pas du tout l'objectif du club en début de saison. Et puis, au fur et à mesure, on a pris goût à l'affaire. Et puis après, ben, on n'a plus envie de lâcher, quoi. Et c'est vrai que jouer à 18h30 entre l'élite garçon et l'élite fille, c'est vraiment la cerise sur le gâteau par rapport à notre présence à Bercy. On ne peut pas espérer mieux, quoi. C'est vraiment une prise en compte du travail qui est fait. Ils commencent à comprendre qu'on n'est pas là par hasard. Et puis même qu'on croise des gens, que je ne connais même pas, je veux dire franchement. Ils disent, oh, dis donc, le Horn, qu'est-ce que c'est bien à Mamirol. Et voilà, il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. En 4 jours, entre le moment où on a connu toutes les règles du jeu pour aller à Bercy, et le moment où on avait la date butoir pour commander des places, on a recueilli 230 inscriptions pour le déplacement à Bercy. C'est exceptionnel pour nous. Les joueuses, j'aurais dit au mois de novembre, au 21 mai, on sera à Bercy pour jouer une finale de Coupe de France, elles m'auraient toutes rayonné. Hein.
16h30, vous l'avez dit Yves, finale de l'élite féminine entre Toulon, le champion de France de la saison passée, et Nîmes. C'est une affiche plutôt inédite en finale de la Coupe de France.
Alors, figurez-vous qu'en 2008, Toulon était encore en Division 2. Deux saisons plus tard, le club de Sira Badenbélé, hein, l'international, décrochait donc en play-off le titre de champion de France, donc on est à la barbe de Metz, hein, donc ça c'est la saison dernière. Cette saison, les filles de Toulon ont disputé la Ligue des Champions. Alors, bien entendu, l'apprentissage a été difficile. Les Varoises sont tout de même parvenues à être reversées donc en Coupe des Coupes. Elles sont parvenues en quart de finale de cette Coupe des Coupes. En championnat, elles terminent troisième ex aequo avec Nîmes, leur adversaire de demain à 7 points de Metz. Une Coupe de France dans la vitrine du club, ce n'est pas un pis-aller, mais ça serait une belle récompense, comme le souligne Thierry Vincent, l'entraîneur de Toulon Saint-Cyr.
Notre saison est très belle. Elle ne sera pas sauvée par une victoire, elle sera rendue encore plus belle par une victoire. C'est sûr que notre recherche, je pense à Manuel Ailly comme à moi et à nos clubs respectifs, c'est d'accrocher et de mettre son nom au palmarès. Parce que comme je dis aux filles, c'est quelque chose qui sera après à vie sur le palmarès du club, sur le palmarès des protagonistes de cette finale. Pour l'instant, il n'y a que Metz qui a gagné les deux compétitions hexagonales, c'est-à-dire le championnat et la Coupe de la Ligue. Est-ce que pour cela, tous les autres clubs ont raté leur saison? Je pense pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on a un objectif commun avec Nîmes, c'est ramener un trophée à la maison. Ça viendrait confirmer peut-être notre très belle saison de l'année dernière par un autre trophée différent. Mais rien que notre présence en finale, notre troisième place au championnat, confirme que Toulon maintenant est ancré, je l'espère, pour longtemps dans les clubs de haut niveau du championnat français.
Toulon donc et Thierry Vincent sont entraîneurs. Toulon c'était le champion de France la saison passée. Le club de Nîmes attend lui une consécration depuis 2009.
Alors 2009, Nîmes avait remporté la Challenge Cup, hein, une compétition européenne qui d'ailleurs cette année est revenue aux Girondines de Mios. Nîmes avait fait un recrutement de grande qualité à l'intersaison en faisant revenir au bercail Camille Aiglon et en engageant une autre internationale française, Sophie Herbrecht. La machine s'est grippée lorsque notamment Herbrecht s'est blessé, mais tout n'est pas perdu puisqu'il y a cette finale de Coupe des Coupes avec en prime un billet à décrocher pour la Coupe des Coupes la saison prochaine. Mais comme le reconnaît Camille Aiglon, l'arrière de Nîmes et de l'équipe de France, une finale de Coupe de France est un match particulier.
C'est un match à part, c'est pas sur un championnat où il faut peut-être une certaine régularité. Là, ce sera 60 minutes. Je pense qu'on est clairement outsider par rapport à Toulon et sa fin de saison. Maintenant, c'est peut-être pas une place qui nous déplaît. On va jouer notre chance à fond, quoi qu'il en soit. Le handball féminin est pas très souvent à Bercy. Même l'équipe de France féminine y a rarement joué, à part au Mondial 2007. Alors, il faut se méfier un petit peu de ça, dans le sens où, bah, notamment pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est un contexte qui peut inhiber ou qui peut faire un peu peur. Maintenant, en plus, il y a la télévision qui est là. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce sera un match particulier, en plus d'être une finale de Coupe de France.
Camille Aiglon, donc l'arrière droite de Nîmes et aussi de l'équipe de France. Comme souvent, 16h30, on continue avec la finale de la Coupe de France féminine donc entre Toulon et Nîmes. C'est au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et puis à 20h30, la grande finale, la finale de la Coupe de France masculine entre Chambéry et Dunkerque. Et là aussi, Yves, comme pour les filles, l'affiche est plutôt inédite.
Ouais, affiche inédite et surtout aucun des deux clubs n'a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. Et pour cause, puisque Montpellier a remporté 10 des 11 dernières finales, laissant simplement une miette en 2007 au Paris Handball. Vous voyez là, l'hégémonie de Montpellier. Donc ça fait tout drôle de ne pas voir Montpellier demain en finale de la Coupe de France, hein, puisque c'est l'ogre, hein, vous le savez.
Mais tant mieux un peu pour les autres.
Exactement.
Pour une fois qu'ils vont avoir la part du gâteau.
C'est bien ce que je dis, une miette en 2007, Paris Handball. Allez, tiens, tu prends ça. Montpellier, cette saison, a remporté, vous le savez, la Coupe de la Ligue et le championnat. Chambéry terminera second et Dunkerque troisième. Je dis terminera, puisqu'il reste encore deux journées à disputer. Les Savoyards Montpellier sont donc assurés de disputer la Ligue des Champions. Dunkerque peut entrevoir cette prestigieuse compétition si la Fédération européenne accepte de lui accorder une wildcard pour participer donc à un tournoi de qualification à la Ligue des Champions. En attendant, Dunkerque est assuré de disputer à minima la Coupe des Coupes la saison prochaine. Alors figurez-vous que dans cette équipe nordiste, il y a un gardien très talentueux, qui vient d'être élu meilleur gardien de la saison, Vincent Gérard, c'est son nom. Il est passé par Montpellier et par Istres, et puis il a une petite gloriole à son palmarès. C'est le gardien, lorsqu'il était à Istres, il était à Miami, vous rappelez, la fameuse Coupe de la Ligue à Miami, et au nez à la barbe de Montpellier, eh bien, il avait décroché donc la Coupe de la Ligue, finale de la Coupe de la Ligue, il l'avait gagné donc à Miami, ce qui, bon, rajoute une lettre de noblesse sur un palmarès. Alors, meilleur gardien français, je vais tout d'abord demander, ça faisait quoi meilleur gardien français?
Je suis content, ça fait plaisir, c'est toujours une satisfaction d'être reconnu à la fois par les joueurs, les entraîneurs et par le public. Si on pouvait échanger ce titre individuel contre la Coupe de France, c'est sûr que ça me ferait vraiment plaisir. On fait un sport collectif, alors même si je suis gardien de but, c'est que c'est toujours un peu plus individualiste un gardien de but. Mais c'est vrai que pourquoi on fait du hand, c'est pas pour jouer le maintien, c'est pas pour jouer la troisième place d'un championnat de France. Donc c'est vrai que ça serait vraiment une grosse satisfaction et ça couronnerait notre saison qui a été, malgré tout ce que certaines personnes ont pu dire, très très positive. Je pense que la saison est loin d'être catastrophique et c'est même une des meilleures, la meilleure saison, je pense, de Dunkerque depuis 10 ans. Alors on n'a pas fait de Coupe d'Europe, bien sûr, mais moi je pense que ça serait le plus qui montrerait vraiment que le club a atteint une certaine maturité dans le handball français.
Vincent Gérard, donc le gardien de Dunkerque, qui a été élu meilleur gardien français de l'année. Yves, un dernier mot concernant cette finale Dunkerque-Chambéry.
Alors Chambéry, nous en avons largement parlé la semaine dernière avec Philippe Gardan. La fin de saison en championnat a été plutôt difficile pour les Savoyards qui ont gardé la tête du championnat pendant presque 6 mois avant de lâcher prise face à Montpellier samedi dernier. Ils ont été battus en finale de la Coupe de la Ligue par Montpellier. Et là se dresse Dunkerque qu'ils ont battu à 2 reprises en championnat. La seule petite incertitude, c'est que Xavier Barraché et Greg Detraise relèvent de blessure et qu'ils risquent de ne pas être à 100%. Et puis la note glamour de cette finale, ou plutôt de ces 2 finales. Demain soir, un joueur et une joueuse risquent de fêter ensemble leurs trophées respectifs, puisqu'un des couples les plus célèbres du hand tricolore va se retrouver à quelques heures d'intervalle sur le même parquet. Il s'agit de l'arrière-chambérien Guillaume Sorina et de la Nîmoise que nous avons précédemment entendu, Camille Aiglon. Donc, Camille Aiglon et Guillaume Sorina, donc, risquent finalement de fêter ensemble un titre respectif. Écoutez ce qu'en pense Camille Aiglon.
Oui, c'est vrai que à 20h30, je serai clairement pour l'équipe de Chambéry et puis ça serait vraiment un très très bon week-end si on pouvait tous les deux ramener la médaille. C'est beaucoup plus ralent pour lui que pour moi parce que moi je sais que voilà, je dois me concentrer sur mon match et puis qu'après j'aurai le plaisir de le voir jouer et j'espère de le voir gagner. Pour lui c'est sûr que c'est un petit peu frustrant, mais voilà, eux aussi ont fait une très belle saison et là c'est un petit peu dur la manière dont ça se termine pour eux en championnat. Donc pour sauver leur saison et pour montrer la belle saison qu'ils ont fait, je pense qu'un titre ferait vraiment du bien au club et à l'équipe. Donc j'espère qu'ils arriveront à décrocher ce titre parce qu'ils le méritent vraiment.
La note glamour donc des 2 finales, Camille Aiglon qui va retrouver son chéri demain.
Exactement.
sur le parquet du...
Alors c'est frustrant parce que son chéri, il pourra pas la supporter puisque 16h30 finale fille, 20h30 le match des garçons, il sera dans la concentration de la préparation de la finale. Bon, à la limite, il pourra avoir une mi-temps, mais bon, vous voyez le...
Mais elle pourra le supporter par contre.
Exactement.
Même si elle est triste.
Comme elle le supporte dans la vie, d'ailleurs.
Oui, comme elle supporte dans la vie, en effet. Une dernière information qui est tombée. Claude Onesta a dévoilé hier la liste des 16 joueurs tricolores qui participeront à la tournée amicale en Argentine. C'est du 5 au 14 juin prochain.
Oui, alors avec tout d'abord des cadres qui seront absents, et non des moindres. Didier Dinard, Luc Abalo et les frères Gilles. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup sollicités. Ils seront d'ailleurs sollicités la semaine prochaine puisqu'il y a le Final Four de la Ligue des Champions à Cologne. Luc Abalo et Didier Dinard donc jouent à Ciudad Real et les frères Gilles jouent à Hambourg. Alors, Claude Onesta est obligé d'appeler d'autres joueurs. Et là, surprise, on ne s'y attendait pas si tôt. On s'y attendait, on pouvait s'y attendre, parce que tant sa saison a été vraiment exemplaire. Eh bien, il y a un petit nouveau dans cette équipe de France, un nom qui en dit beaucoup.
Qui a dit non, ouais.
Ouais, il va se retrouver avec le grand frère, à savoir Luka Karabatic, 23 ans. Aucune sélection donc en équipe de France A. Il a eu des sélections en équipe de France jeune, en équipe de France junior. Et là, ben, il va faire ses armes. Et le clin d'œil, ben, il va se retrouver avec deux copains de sa même génération. Un certain Xavier Barraché et un certain autre, William Acambré. Bah, c'est très bien pour Luka Karabatic, donc, qui va se retrouver en Argentine donc, avec l'équipe de France A.
Et qui pourra s'aguerrir donc, en Argentine.
Exactement.
Il va en profiter. Et on va voir si tout le talent, en tout cas toutes les espérances qu'on met en lui, eh bien, elles sont prouvées. Bah, bien, merci, merci Yves. À la semaine prochaine.
Bah, écoutez, éventuellement.
Comme, voilà. comme tous les vendredis, ce sera peut-être moi, ce sera peut-être Frédéric.
C'est un plaisir.
Pour lequel on a une pensée. Ou,
exactement.
Ou Guillaume.
Merci. Merci Maxime.
À la semaine prochaine.
RTL L'équipe, Carrément Sport.
Le dernier quart d'heure de Carrément Sport, tous les jours de la semaine. On est vendredi et c'est votre dernier Carrément Sport. La rubrique, la dernière rubrique de la semaine, histoire de sport. On va revenir sur le match, un des plus grands matchs de boxe de l'histoire entre Mike Tyson, champion du monde WBA des lourds, et Evander Holyfield, The Real Deal. La revanche de la première opposition où Holyfield l'a emporté sur arrêt de l'arbitre à la 11e reprise, ce jour sur le ring où une oreille est tombée sur le tapis. L'histoire de cet incroyable duel vous est narrée par Guillaume Laniel.
Jamais un boxeur n'a suscité une telle admiration, une telle fascination. L'attente de Tyson électrifie l'atmosphère, comme jamais. Tout le monde attend le tigre qui va détruire et défoncer tout le monde. C'est unique dans l'histoire de ce sport.
On savait qu'il y avait quelque chose devait se passer, parce que c'était le phénomène Tyson. Mais Tyson avait des choses dans les poings que les autres n'avaient pas. Il avait la foudre.
28 juin 1997, Las Vegas, Nevada, le MGM Grand Arena entre en ébullition à l'heure d'accueillir l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe. Mike Tyson, plus jeune boxeur à avoir jamais remporté un titre mondial et alors champion du monde WBA des lourds, défie celui que l'on surnomme The Real Deal, Evander Holyfield, ancien champion incontesté des lourds légers. Jean-Claude Boutier, champion d'Europe des poids moyens 1971 et 1972, se souvient.
Dans la salle, dès que Tyson rentre, c'est la chair de poule, hein, c'est les poils qui se restent sur les bras. Il se passe quelque chose qu'avec les autres boxeurs, on ne voit pas. Les gens se lèvent, non pas pour l'applaudir tous, soit pour le huer, soit pour l'encourager, soit parce qu'il laisse personne indifférent, parce que c'est Tyson.
Ce Tyson Holyfield de juin 1997, c'est également la revanche d'un premier combat remporté par Holyfield le 9 novembre 1996, 5 années après l'annulation d'un premier duel entre les deux champions. L'attente est alors gigantesque et les enjeux dépassent le seul cadre du sport. En 1997, Jean-Philippe Lustig était l'envoyé spécial de TF1.
Il y a des recettes guichets de plus de 16-17 millions de dollars. Les bourses des boxeurs sont de l'ordre de 30 millions de dollars. On est dans le délire, hein, faut le savoir. Ce match à enjeu génère des sols uniques dans l'histoire de la boxe en 1997. Comme déjà le match précédent, 6 mois avant. C'est les matchs les plus chers, battus depuis par quelques rencontres avec Pacquiao ou De La Hoya. Mais un impact bien plus supérieur, parce que c'est les lourds et c'est Tyson et c'est Holyfield.
Any questions from the challenger? Chief second. Right. Any questions from the champion? Chief second. Let's get it on!
The waiting is over. The talking is done. The rematch is here. Evander Holyfield, confident, relaxed.
Tous les yeux des 17 000 spectateurs du MGM Grand Arena sont alors dirigés vers le ring. D'un côté, Evander Holyfield, cette grande carcasse que l'on dit alors fébrile, mais un boxeur d'une efficacité et d'une intelligence rare. De l'autre, le tigre, prêt à rugir, Mike Tyson, un charisme incroyable, un look de boxeur d'un autre temps, mais pour beaucoup en 1997, une énigme.
On se pose des questions, c'est vrai. On ne sait pas où il en est, encore une fois. On ne sait pas comment il va réagir parce que il est imprévisible. Et on s'attend à un combat technique de la part d'Holyfield, bien sûr. Mais Tyson, on ne sait pas comment il va. On ne sait pas. Et c'est ce qui fait, en fait, presque tout l'intérêt de ce combat, des paris, l'incertitude. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de la boxe. D'ailleurs.
Mais dès les premières secondes de ce combat, Mike Tyson rassure. Et comme lors de ses KO les plus mémorables, c'est lui qui porte le premier coup.
A straight right by Mike Tyson. Shrugged off by Evander Holyfield.
Mike came in with the same thing, 1-2, looking to go over the jab.
And a lot of movement by Tyson, which we did not see in the first fight.
Tyson, comme d'habitude, parce qu'il ne connaît que cette technique et cette tactique, se jette sur son adversaire et cerise sur lui. Ça a été efficace pendant des années de gagner très vite de façon expéditive parce que ses adversaires perdaient leurs moyens avant même pratiquement que le premier coup de gong ne soit donné et qu'ils étaient terrifiés. Et finalement, Holyfield, lui, c'est un mec qui est très sûr de lui, qui est très solide, qui a une grande expérience et qui ne le craint absolument pas grâce justement à cette première victoire 6 mois avant. Donc, Tyson se jette sur lui et puis Holyfield contrôle, ne rompt absolument pas. Et puis comme c'est un truqueur, il va l'aimer.
Holyfield ne peut pas développer sa boxe. Alors qu'est-ce que fait Holyfield parce qu'il a beaucoup de métiers? Il commence à passer les bras, une fois, deux fois, frotte la tête. Plus ça monte et plus Holyfield le fait. Parce qu'il dit, ça y est, il va tomber dans le piège. Il va faire une connerie, quoi.
Not good.
Hey, Wilson, come here. You get better now. All right? Let's go, come on.
Le premier round prend fin, la tension à Las Vegas atteint des proportions gigantesques et tandis qu'Evander Holyfield prend un léger ascendant à l'issue du premier round, beaucoup attendent une réaction de Mike Tyson.
Deuxième reprise, à nouveau même scénario, il sent qu'il est impuissant, qu'il ne peut pas descendre Evander Holyfield et il en rêvait de le mettre KO très vite. Holyfield continue à l'ennuyer, à le bloquer, à le déstabiliser. Et après, ça monte.
Nice right hand by Mike. He is trying to get that right hand home.
A seeming lead on the line on one big shot.
There you see. Il sent que Tyson ne sait plus comment faire. Il a cette tête d'Holyfield qu'il caresse, qu'il énerve. Mais qu'il l'énerve au maximum. Et en plus, il ne peut pas frapper. C'est dramatique parce que cet homme qui est puissant d'un seul coup est réduit à l'impuissance, justement. Alors, à un moment, il se passe... ce qui devait se passer, c'est que Tyson disjoncte.
Et à 39 secondes de la fin du troisième round, un coup de tonnerre retentit sur le MGM Grand Arena de Las Vegas lorsque l'invraisemblable se produit.
Oh my goodness, he's got a study right here. Holyfield bit by a dirty Mike Tyson.
J'ai jamais vu ça, moi. C'est-à-dire qu'une morsure dans un combat de cette intensité à enjeu dans ce type de match-là, ça n'est jamais arrivé. Moi, je suis au bord du ring, on sait qu'il y a une morsure. Et en plus, à un moment donné, Holyfield donc s'arrête et puis regarde vers l'arbitre, il se met à crier. Et on voit, il met la main à son oreille. Tyson a mordu l'oreille.
Tout le monde devient fou dans la salle en même temps, quoi. En même temps qu'Holyfield. Parce qu'on voit Holyfield qui, d'un seul coup, saute en l'air, réagit. Il a mal. Et c'est normal. C'est un moment de folie, quoi. Et puis, après, on sait ce qui se passe. L'arbitre intervient, ramasse même le bout de l'oreille. Et bon, c'est un peu dramatique.
Tyson, ce boxeur devenu fou, écope de 2 points d'avertissement avant de retomber une dernière fois dans la folie.
Holyfield fait des bonds de douleur. Il a horriblement mal puisqu'il lui arrache un morceau de cartilage qu'il recrache après, Tyson. C'est dément.
Alors moi, je veux pas défendre Tyson, mais il y a un moment, c'est l'école de la rue. Tyson, il est familier à ça. Et il lui restait une arme possible. Je suis sûr que s'il avait eu un couteau, il aurait pris le couteau. À ce moment-là, s'il avait eu un pistolet, il aurait pris le pistolet. Tyson voulait se battre avec ses armes. Il n'y parvenait pas. Mais poussé à l'extrême, et comme c'est un personnage qui va dans les extrêmes, il a fait une chose qu'il ne fallait pas faire.
Un chaos indescriptible s'empare dès lors d'une salle devenue une arène, et dans la confusion la plus totale, le dénouement sonne alors comme une évidence.
It's over! It's over! Throwing that
arguing that it's over. I think they've just had enough. Tyson showing desperation and fighting Holyfield two times.
L'un des combats du siècle s'arrête donc au bout de 3 rounds. Mike Tyson est disqualifié avant de devenir hystérique sur le ring, frustré comme la grande majorité des spectateurs présents ce soir-là.
C'est une désillusion parce que c'est pas ça que tu t'attends quand tu vas voir un combat de ce niveau-là. Et le dénouement, évidemment, n'est pas celui qu'on attend. Alors, il y a de la déception parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si Tyson aurait pu trouver la solution plus tard. On ne sait pas si Holyfield aurait pu, lui, maîtriser encore ce phénomène qui était Tyson.
C'est d'une tristesse totale parce que on a envie de l'aider. Voilà, on sait ce qu'il y a derrière quand il était bien entouré, apaisé. On sait à quel point il est sensible, à quel point il était généreux. Mais après, il est incontrôlable. Et après, tout le monde le déteste. Sur son t-shirt, ses hommes de coin avaient décidé de lui faire un t-shirt. À la fois les hommes de coin le portaient, c'est pour vous dire l'entourage, c'était aimé par peu mais respecté par tous. C'était un peu l'image du Tyson fin de carrière, fin de vie quoi. Je me souviens, le Las Vegas Sun et Los Angeles Times avaient titré le The Bite of the Century quoi. C'est la morsure du siècle. Tout le monde se souvient de ce match à cause ou grâce à ce bout de cartilage. D'ailleurs que Holyfield ne s'est jamais reconstitué.
Ce 28 juin 1997, deux hommes ont écrit ensemble un nouveau chapitre de l'histoire de la boxe. Ce combat sera également le point de départ d'une longue descente aux enfers pour Mike Tyson, un boxeur au parcours d'écorché vif qui, malgré tout, laissera une trace indélébile dans l'histoire du sport.
C'est Tyson, et Tyson, on ne peut pas le refaire. Tyson finira pas avec des pantoufles aux pieds, je crois pas, jamais. C'est parce que c'est Tyson, c'est les extrêmes. C'est quelqu'un d'une générosité, d'une douceur et d'une violence extrême.
RTL L'équipe, Carrément Sport.
Voilà, Carrément Sport, c'est fini pour cette semaine, mais les programmes ne s'arrêtent pas sur RTL L'Équipe, puisque dans quelques minutes, c'est le début de Carrément Moteur, présenté par Christian Pasquet, et un programme très chargé. Christian, rebonjour.
Salut Maxime. Oui, le programme est chargé forcément, on est en plein Grand Prix d'Espagne, jeune homme. Et on est même en fin de session,
oui, vous l'avez dit tout à
l'heure, de première séance d'essai libre du Grand Prix d'Espagne. C'est à Barcelone, enfin, en tout cas c'est au nord de Barcelone, circuit de Catalunya, c'est à Montmeló. Voilà, on va parler F1, on va parler Formule Renault 3.5, c'est-à-dire World Series by Renault, on va parler GP2, on va parler moto. Un programme assez complet avec mes petits camarades. Voilà le programme de cette émission. Une heure d'infos sur les sports mécaniques.
Et bien tout de suite, Christian, on va aussi parler voile dans le Café des Sports entre 13h30 et 14h30 avec les frères Perron. De 14h30 à 15h30, les rediffusions de Carrément Moteur et de Carrément Sport d'abord entre 14h30 et 15h30. Carrément Moteur, 15h30, 16h30. 16h30, 18h, Carrément Foot avec Raphaël Sebaoun aux manettes. Et puis à 20h, le Multiplex League 2 avec aux manettes Salim Bongali en direct de Reims pour l'avant-dernière journée de Ligue 2. Et puis à 20h45, en même temps, la finale du Challenge européen. 20h45, Harlequins, Stade français, commenté par Luigi Collange. Carrément Sport, vous nous retrouvez lundi à partir de 9h30. Ça sera présenté par Guillaume Laniel. Je vous souhaite un bon week-end à tous.